France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Distingué, récompensé, décoré, Médéric Collignon est, depuis une dizaine d'années, une figure incontournable de la scène musicale française, que l'on qualifiera de jazz, à défaut de trouver un meilleur terme, même si lui va chercher ses sources d'inspiration, aussi bien du côté du funk, du rock ou de la musique contemporaine la plus savante. Qu'à la trompette, au bugle, au cornet, au sax-horn ou de la voix, il revisite Miles Davis, Gershwin, King Crimson, Morricone, Lalo Schifrin ou Quincy Jones, avec sa formation Jus de boxe, Collignon fait l'unanimité, ou presque. En 2004, Yvan Amar recevait dans Un poco agitato Médéric Collignon, qui animait alors une masterclass pour musiciens professionnels à la Cité de la Musique. L'occasion pour lui de raconter son parcours depuis ses Ardennes natales et d'expliquer ses techniques vocales et instrumentales, le tout sur un mode plutôt agitato.
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 Agitato. Un poco agitato.
Bonjour, aujourd'hui dans Un poco agitato, nous avons invité l'un des électrons les plus libres qui fleurissent sur la scène de la musique improvisée en France actuellement, c'est Médéric Collignon. J'allais vous appeler Médéric Électron, mais c'est bien Collignon votre nom. Merci beaucoup.
Ça me va.
Bon, vous le prenez pas mal que je vous ai qualifié d'électron libre.
Non, ça rime avec Collignon, ça me va très bien.
Et libre, ça rime à peu près avec Médéric. On est donc assez embarrassé quand il faut vous qualifier. On peut dire que vous êtes musicien.
D'abord, c'est bien, oui.
Oui, d'abord, et puis c'est à peu près tout, parce que pour essayer de voir quels instruments sont vos instruments de prédilection, vos instruments favoris, la plupart du temps, on dit, un tel est compositeur, un tel joue du cornet, de la clarinette, du piano. Vous, c'est plus dur, Médéric.
C'est effectivement un peu plus difficile. Bon, malgré tout, j'ai commencé à... Mon histoire musicale, c'est la trompette, hein, au conservatoire, à Charleville-Mézières. La voix ensuite, on peut dire ça comme ça, je me suis intéressé à la voix vers 15-16 ans.
Mais pour la trompette, vous avez commencé par un parcours relativement académique, conservatoire,
totalement.
Etc. La voix, est-ce que c'est le même parcours ou bien c'est totalement différent?
Totalement différent, ouais. Là, il me fallait quelque chose...
La voix, elle est venue court-circuiter la trompette?
Peut-être qu'on peut dire cela comme ça, en fait. Je voulais garder une espèce d'indépendance, en fait, dans l'action, la trompette, 14 ans de conservatoire, tout ça, j'ai appris les rudiments de l'instrument, savoir bien vibrer, savoir bien sonner, nanana, écouter de la belle musique, tout cela. Mais la voix, ouais, c'est un peu le secret, quoi, le petit jardin secret. J'ai sollicité une personne, je crois, pour prendre quelques cours. Ça n'a pas très bien marché, tout simplement. Ça arrive de temps en temps dans la vie de musicien ou d'étudiant, il n'y a pas de vibration entre le prof et l'élève.
Ça vous a au moins appris ça, c'est qu'il n'y avait pas de vibration, donc qu'il fallait chercher ailleurs.
D'une manière autodidacte.
Tout seul.
Aller tout seul.
Donc
voilà.
On y reviendra tout à l'heure. Si vous êtes l'invité d'Un poco agitato aujourd'hui, c'est également à cause d'un stage que vous allez encadrer. Je ne sais pas si ça vous va très bien comme mot encadrer. Vous encadrez, Médéric, de temps en temps?
J'encadre,
bien. Vous n'êtes pas tellement un cadre, vous.
J'ai pas l'air, ouais, comme
non,
ça.
Non, vous n'avez pas l'air.
Je suis assez sévère, en fait.
Vous
quand
êtes
je...
assez sévère.
Ah oui, je suis
bon,
assez strict.
Vous allez en tout cas vous occuper d'un stage pour musiciens, comment dire, pré-professionnels, pour musiciens qui ont déjà une bonne expérience, qui sont chevronnés. Un stage qui va se dérouler à la Cité de la Musique dans l'écho du festival de jazz au mois de septembre prochain.
Tout
ça, c'est relativement loin, mais si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il faut s'inscrire et que la clôture des inscriptions, c'est dans quelques jours, c'est le 15 juin.
15 juin, donc c'est très très bientôt. Ouais.
Vous en avez déjà encadré, donc, ou dirigé?
C'est déjà arrivé, ouais. mais comme souvent, d'une manière individuelle, quoi. C'est-à-dire, vous arrivez, on vous sollicite, vous arrivez avec vos idées, vos impressions même sur le moment, puisque j'aime avoir une idée en amont, certes, mais j'aime arriver dans un lieu et sentir un peu les énergies des personnes qui m'entourent, avec qui je vais partager une après-midi ou une semaine, ça dépend. Et puis, par ce geste, quoi, d'improvisation, puisque c'est aussi ça mon taf, mon métier. Donc on cherche ensemble pour effectivement réaliser à la fin quelque chose de conséquent, quoi. Ensemble, c'est
bon,
tout bête.
Là-dessus aussi, on reviendra tout à l'heure. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez amené quelques disques, vous en avez amené beaucoup, je crois que vous
un
sortez
peu trop,
d'un,
peut-être.
D'un grand magasin spécialisé,
sors,
vous avez laissé un petit peu
achats.
La paye du mois, là, visiblement. Et puis vous avez amené aussi un inédit, un disque qui a enregistré un petit extrait de concert que vous aviez donné.
Il y a 4 ans, je crois, il y a presque 4 ans, puisque c'était en août 2000 à Rocella. C'était avec c'était pendant le festival de jazz là en Calabre, avec Christophe Pognot, avec Manu Coggia, Vincent Torel et Vincent Tégère. C'était une carte blanche en fait que l'on m'avait donnée à cette époque. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire un groupe avec mes camarades, quoi, et un groupe un peu impossible, j'appelais ça.
C'est un bon nom, le groupe impossible.
Le groupe impossible.
C'est un groupe qui a duré ?
Non, c'était juste pour cette occasion-là. Peut-être plus tard, je reprendrai un peu les rênes de cette chose.
Et c'était très improvisé, alors ?
Il y avait l'écriture, hein, que j'avais amené, un arrangement aussi que j'avais amené d'un compositeur qui s'appelle Vangelis, que l'on connaît surtout côté cinéma. Et puis Christophe Mognot aussi avait amené un morceau, et Vincent Torel, je crois, et voilà.
Et vous y étiez tous retrouvés autour de ces quelques partitions, et ça donnait cela. Frédéric Collignon, je viens d'essayer de vous faire faire quelque chose d'un petit peu osé. Je voulais vous faire chanter sur la musique qu'on entendait là.
Que vous entendiez, oui, mais pas moi, parce que je n'ai pas de casque.
C'est là, c'est par
on
là
peut essayer.
Que ça pêchait.
Ça ferait justement du Charles Ives, un peu des superpositions comme ça, où plusieurs parties de l'orchestre ne savent pas trop ce que jouent les autres. Ça,
c'est oui, on peut jouer d'ailleurs sans entendre ce que font les autres, ou en entendant
oui,
juste
fait,
la
oui.
moitié de ce que font les autres.
On peut,
la partie qui émerge, et on essaye de deviner ce qui est caché.
En mixage, en studio, actuellement, on fait ça par exemple avec Claude Barthélémy, avec l'ONG, puisque de temps en temps, on se met...
Alors l'ONG, c'est l'Orchestre National de Jazz.
De jazz.
Oui, donc vous participez à l'ONG en ce moment, puisqu'on sait qu'il change tous les 2-3 ans.
Bah justement, quand on enregistre, il y a des situations comme ça, on n'est pas... On nous fait pas obligatoirement écouter tout ce qui se passe dans le casque. On a une partie seulement du son, ça peut être juste une rythmique ou juste un pupitre quelconque. Et puis voilà la situation. On est concentré dans une partie du son, et l'autre, au bout du compte, après écoute, on a le rendu, quoi. Effectivement, ça donne des énergies un peu différentes, gérées différemment, mais ça peut être très excitant.
Ça donne une position musicale totalement différente.
Oui, parce que vous n'êtes qu'un instrument, vous n'êtes qu'un muscle. Vous êtes utilisé, et ça, c'est pas péjoratif, par une personne qui a le projet artistique, quoi. Et ça, j'aime bien être manipulé.
Ça, c'est un peu propre au grand orchestre. Quand on est 3-4, c'est plus rare qu'on vous utilise comme un muscle, justement.
C'est rare.
Avec un grand orchestre comme celui de Claude Barthélémy, c'est plus facile, parce qu'il y a beaucoup de muscles.
Il y a beaucoup de muscles. Mais ça arrive aussi, surtout aujourd'hui, en musique improvisée, où l'on vous demande d'enregistrer, par exemple, avec une guitare et tout, et vous vous amenez avec vos propres idées, vos moyens là sur le moment et tout. Et l'on vous dit, bah, tu sais, après, ce matériau que je mixerai, toi, tes sons, tes idées, tralala, eh ben, je vais le superposer à un saxophoniste, tiens. Et puis plus tard, un percussionniste, etc.
Et comment vous réagissez à ça? Très souvent, vous avez l'impression qu'on vous objective un petit peu, qu'on vous utilise justement pour ce que vous savez faire, votre son, plus que votre imaginaire musical. Est-ce que ça fait un petit peu peur de se dire « je vais faire ça », mais après, il va le manipuler, il va le tirer dans tous les sens.
Le résultat sera certainement bien différent, bien distinct de ce que l'on propose individuellement, là, sur ce moment T. Enfin, c'est des trucs qu'il faut... C'est très excitant, je trouve. C'est une autre façon d'être... un musicien. Le musicien, c'est aussi des sons. Tu balances des sons, tu balances tes émotions, mais rien ne nous empêche aujourd'hui de les manipuler de différentes manières. On peut prendre l'enregistrement en live, on va dire, c'est-à-dire de A à B, hop, voilà, tu as enregistré ça avec X, Y, personne, et puis c'est ce que l'on va prendre, on va travailler là-dessus. Mais il y a d'autres façons qui sont tout aussi excitantes, où tu vas enregistrer par exemple sur une bande, déjà préenregistrée. Ça arrivait souvent, je parle de ça en fait, parce que cette année c'est arrivé avec le méga octet d'Andy Emler, où je suis arrivé le dernier de la classe, et quelques jours après, où j'ai dû faire en re-re, on appelle ça, hein, réenregistrer dessus toutes mes voix. Qu'elle soit au cornet, au bugle.
C'est un luxe d'arriver le dernier.
C'est formidable.
C'est pas comme dans la classe. Là, c'est la star qui arrive en dernier.
Non.
Tout est fait.
Non, ça fait une impression d'emballage. Et c'est le danger aussi d'aspirer la musique vers vous. Un peu trop vers vous. Justement, parce que vous êtes le dernier, vous pouvez relativiser plus facilement que les autres. Et ça, c'est justement aussi psychologiquement un truc intéressant. C'est qu'il faut absolument oublier cette notion de temps, de présence, en fait. J'étais dans le casque avec eux. J'étais avec eux. J'étais pendant la séance, pendant deux jours avec eux. C'est ça qui je me suis mis dans.
Donc aujourd'hui, être musicien, c'est un petit peu savoir jusqu'à quel degré on va se laisser instrumentaliser. À quel moment il faut réagir, à quel moment il faut rester une identité propre, et puis à quel moment on peut lâcher en disant, bon bah après tout c'est le jeu quoi.
Voilà, je suis un outil, on parle de muscle, je suis un muscle, mais je ne suis pas le cerveau, je suis le bras, le pied.
Écoutez, puisqu'on a la chance de vous avoir aujourd'hui, on a à la fois le muscle et le cerveau, on a aussi quelques micros. Si vous acceptiez de vous lever pour aller devant, je ne sais pas encore si vous allez chanter ou jouer de ce petit cornet absolument adorable que vous allez...
Je vais jouer du cornet de poche.
Bon, du cornet de poche.
Je ne sais pas de quelle façon, mais je vais en jouer.
Bon, Médéric Collignon. Pour Un Poco Agitato, au cornet de poche et en solo.
Et voilà.
Et voilà, comme vous dites, Médéric Collignon, merci, merci beaucoup. Quand vous jouez du cornet, vous jouez vraiment du cornet? Je dis ça parce qu'il y a des moments où vous chantez quand même dans votre instrument.
Ah oui, je pense bien là. Je pense très, très, très souvent à quand même différencier. Par exemple, pour parler de cuivre, le cornet de poche, le bugle ou d'autres petits cuivres que je fais, la trompette à palette, la trompette à
qu'est-ce
à
que
coulisse.
C'est une trompette à palette?
Trompette à palette, c'est le système en fait qui est différent. Plutôt que d'avoir des pistons avec des cylindres percés, vous avez simplement des. En fait, c'est le même système que les corps en fa, sont les systèmes à roulis. Les palettes, ce sont des choses en fait. Vous appuyez sur quelque chose d'horizontal, et c'est les systèmes allemands, système autrichien en fait. Ça donne un son plus chaud que la trompette habituelle.
Et la trompette naturelle, vous avez déjà essayé une trompette dans laquelle on n'a rien, on n'a pas de piston, etc. Je crois que c'est les lèvres qui font tout dans la trompette.
Exactement.
Comme les
trompettes
baroques.
Vitesse de l'air, vibrations et beaucoup d'oreilles, parce que c'est un instrument très très difficile.
C'est abominablement difficile. C'est rarement juste, mais c'est peut-être impossible de jouer juste de la trompette naturelle. Ça vous a pas tenté, parce que à vous entendre comme ça, on se dit mais c'est ça qu'il lui faudrait quand même.
J'ai essayé surtout pas la trompette naturelle, mais surtout le cornet à bouquin, par exemple. Mais effectivement, très difficile à jouer pour moi, pour les doigtés, c'est évident, mais surtout pour la petite taille de l'embouchure. Là, c'était vraiment trop difficile pour moi. Petite embouchure de 2 cm peut-être de diamètre, c'est vraiment tout petit. C'était en ivoire, c'était trop difficile pour moi, quoi. Comme le corps, c'est extrêmement petit. Je trouve que ça prenait pas assez de chair. J'avais du mal à vibrer, ou peut-être que j'aurais dû simplement travailler plus longuement et tout et tout. Mmh. Voilà, quoi. La trompette à coulisses aussi, en fait, plutôt des instruments rares, modernes, mais rares, quoi. C'est plutôt vers là que je tends. J'ai fait aussi du double cornet.
Je sais pas ce que
c'est.
Un cornet.
C'est monstrueux. Faudrait vous montrer, c'est incroyable. Vous avez 3 pistons, comme le cornet à piston traditionnel, et vous avez un 4e piston qui permet de passer sur le côté vers une sourdine, en fait, vers un pavillon complètement écrasé, froissé, pour avoir un son complètement laser, comme ça, voyez-vous. C'est comme si j'appuie sur le dé. Et j'appuie sur ce piston, ça change le son comme ça.
Vous êtes un musicien assez multiforme, Médéric Collignon, parce que quand on vous entend très souvent, on a l'impression que vous faites fi des instruments, que ce qui vous intéresse, c'est surtout le corps et tous les bruits et toute la musique qu'on peut faire avec son corps. Et en fait, vous êtes passionné en particulier par les cuivres.
Par exemple, le sous-bassophone, ça, tout ce qui est grave. Là, je crois que c'est une frustration qui date depuis longtemps. Quoi. Tout ce qui est grave, j'aimerais.
Vous êtes aux deux extrémités faire, de la quoi. Chaîne, là, parce que ou bien vous êtes sur le plus aigu et le plus petit, parce que c'est cornet de poche
cornet
ou ces trompettes
de
poche sont minuscules,
ouais.
Alors que le sous-bassophone, c'est quand même imposant.
C'est le plus énorme.
Il y a du volume. Hein.
C'est le plus énorme. C'est je sais pas combien, 15 kilos ou 20 kilos, 15 kilos, je crois, de métal.
Vous oscillez entre ces deux extrémités.
Non, je dis j'aimerais, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est juste un souhait. C'est une histoire de son, de vibration par rapport au son grave. C'est vraiment quelque chose qui m'excite beaucoup, quoi. Par la voix, je peux le faire. Mais par le cuivre, je ne peux pas, parce que je risque à cause de la différence trop importante de l'embouchure de cornet, par exemple, et l'embouchure de tuba, par exemple aussi, je risque de me mettre en danger, quoi. Tandis que là, avec la voix, je peux, par le biais des effets, je peux me retrouver 2 octaves en dessous de ma voix habituelle.
Vous flirtez aussi avec l'image des instruments. Tout à l'heure, on vient de vous entendre avec ce petit cornet de poche, jouer d'abord quelque chose qui sonnait vraiment comme du cornet,
totalement, ouais.
Et terminer avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de la flûte.
Oui, de la flûte alto.
Ben oui.
Parce que
vous jouez sur le souffle que vous faites entendre.
Je joue par rapport à l'instrument, en fait. C'est comme un puzzle. Vous avez l'embouchure, vous avez tout le corps, la tige, mais pourquoi pas essayer sans le. C'était la question qui s'est passée. Pourquoi pas essayer sans l'embouchure? Pourquoi pas essayer aussi avec l'embouchure retournée? Pourquoi pas essayer sans les pistons? Pourquoi pas essayer avec un tuyau en moins?
Donc vous biseautez le souffle comme si vous jouiez dans une flûte?
Je vais chercher dans la chair sous le côté, à gauche ou à droite, et c'est extrêmement technique. Je vais chercher sur la sous le côté, une espèce de graisse comme ça à l'intérieur des lèvres pour essayer de trouver une vibration qui en fait à la base est assez grasse, assez moche, et au bout du compte essayer de sensibiliser ça le plus possible pour avoir un son chaud comme la flûte alto, je dirais, shakuhachi ou autre chose.
Donc on vous a entendu avec l'instrument.
Oui.
Bah, on peut vous proposer de vous faire entendre sans l'instrument ou avec vous comme instrument.
Avec moi.
C'est quand même l'un de vos instruments favoris.
Ah oui,
bon,
ça, j'adore.
Médéric Collignon au Médéric.
Et c'est parti.
Lâche-moi.
Médéric Collignon, au Collignon, donc, merci encore, merci et
qu'est-ce
bravo.
Qu'est-ce que tu joues du Collignon?
Oui, qu'est-ce que vous jouez? Est-ce que c'est encore de la voix? Parce que souvent vous dites, bon, on n'ose pas dire chanteur, alors on dit vocaliste.
Puis oui,
après
c'est
on
ça.
Se dit vocaliste, bon, vocaliste, il faut de la voix, de temps en temps c'est plus de la voix, c'est du corps,
c'est
disons que c'est du respiratoire.
C'est du guttural, c'est du respiratoire, c'est les cordes vocales sont sollicitées, mais aussi la langue, la respiration qui va vers l'avant. J'inspire et j'expire en fait aussi de ces deux façons-là sont
vous êtes votre
utilisées.
Propre harmonica.
Le Rémi Bricca de la voix. Tout cela en fait, ce sont des sons que j'ai entendus. Qui viennent de très loin, qui sont peut-être pas tout à fait occidentaux, mais je sais qu'ils sont utilisés dans d'autres contrées, quoi, d'autres régions du monde. Donc vocaliste, bah oui, mais d'une autre culture peut-être, enfin, en recherche vers d'autres états, d'autres sons, d'autres prières. Des fois vocaliste, oui, c'est peut-être chanter des onomatopées, tout ce qu'on connaît du jazz ou de la musique contemporaine, peut-être, quoique la musique contemporaine va toucher justement dans des mondes un peu plus proche de ce que je recherche.
Je me souviens qu'il y a bien longtemps, Alain Bosquet avait interrogé le peintre Salvador Dali sur les papes. Et Dali avait répondu, il y a deux catégories de papes, il y a les papes respiratoires et les papes digestifs. Vous, Médéric Collignon, si vous étiez pape, vous seriez quand même plus un pape respiratoire qu'un pape digestif.
Peut-être qu'il y a des états où je me retrouve plus digestif qu'autre chose. Ça dépend de ce que j'ai mangé avant. Le souffle, bien sûr, parce que les cuivres, tout d'abord, ça c'est la première partie de ma vie, mes recherches. Et je dirais même que ce que je recherche à la voix, je le recherche aussi avec le cornet. Il suffit de vibrer différemment, de changer la position de la langue, tout ça. Je vais essayer de chercher ailleurs les sons diphoniques, tout ça.
La pensée musicale, c'est un peu la même.
Le
son que vous allez essayer de trouver, que vous allez anticiper, c'est à peu près la même chose que vous jouiez d'un instrument de cuivre ou bien que vous chantiez.
Ça, je crois que c'est à peu près... Le caractère est là. En amont aussi, il y a les souvenirs, il y a les recherches, tout ça. Je sais que c'est le même personnage, quoi. Par contre, ce que je dois vraiment respecter, c'est l'instrument. Vraiment, il faut... Quand je chante, quand je fais de la voix, je pense à la voix. Je pense pas au cornet, je pense pas au piano, je pense à rien d'autre qu'à mon muscle, quoi. Sinon, je me perds dans des trucs. J'ai pas envie de chercher à imiter bêtement un instrument, parce que je peux imiter le violon, je disais tout à l'heure en rigolant, je peux imiter le truc, mais le son est venu avant l'idée d'imiter quelque chose. C'est venu a priori comme ça, par hasard, on dit tiens, ça ressemble beaucoup au violon par exemple, ou alors la flûte alto. C'est venu par hasard parce que je me suis dit avant, je vais retirer l'embouchure, qu'est-ce que ça donne, et par hasard ça a donné donc la flûte alto, quoi.
Et est-ce que c'est le genre de, comment dire, de posture que vous essayerez de faire prendre à vos stagiaires, puisque je reviens à ce stage que vous allez diriger au mois de septembre?
Alors ça va être un petit peu différent. ça va être un petit peu différent, puisque là, comme je disais tout à l'heure, souvent les stages que je faisais, c'était, j'étais seul, tandis que là, je sollicite mes camarades de slam collectif pour une partie du stage. En fait, ce qu'ils vont observer, c'est la façon de construire notre musique totalement improvisée, avec des idiomes de hip-hop, de trash, de rock, de jazz, de funk, etc., de reggae, ce qu'on veut. Ce que je voudrais en tout cas, c'est qu'ils arrivent à être aussi excités par ce genre de comportement. Pour dire que la musique improvisée, c'est aussi une grande famille. Il y a mille et une façons de jouer cette musique. Pour simplement ouvrir un peu le champ vers la mélodie, l'harmonie, pour dire que la musique improvisée, c'est tout cela aussi. La musique improvisée, j'ai du mal à entendre, à comprendre que ce n'est que des bruitages, des machins. C'est pas ça, c'est pas vrai. La musique improvisée, c'est d'abord le geste d'improvisation, après ce que j'improvise, avec tempo ou sans tempo.
C'est aussi le geste d'écoute de l'autre.
Ça regarde que moi, quoi.
L'improvisation à plusieurs dépend quand même de ce qu'on entend et de ce qu'on renvoie aux autres.
Absolument, on n'est pas tout seul. Ouais. Par contre, ce sont les comportements qu'on peut étudier, qu'on peut travailler.
De façon individuelle.
De façon individuelle. Ouais. Pendant un concert, peut y avoir le guitariste qui joue à sa façon, avec son tempo, son propre réseau comme ça harmonique. Pendant ce temps-là, les 5 autres, 4 autres sont ailleurs.
Il peut y avoir des juxtapositions, de choses très différentes qui marchent chacune selon sa propre logique.
Totalement, totalement. Comme dans le sport, en société, comme beaucoup de... Il y a beaucoup de démarches comme ça parallèles à la musique. La musique, c'est juste un miroir de ce que l'on sait au dehors.
Et ce stage, vous allez donc le co-animer avec vos camarades du collectif Slang, c'est-à-dire qui essentiellement Laurent Geniez,
Maxime Delpierre, Nicolas Mailleux, hein, oui. Ce n'est plus Alexandre Yel, Nicolas Mailleux,
David Aknin
à la batterie, voilà.
Qui vont venir avec vous donc pour faire travailler les étudiants.
Qui viendront la deuxième partie du stage. Donc première partie, c'est explication. On essaye des choses ensemble. J'essaie de centraliser un peu, de comprendre qui est qui. Et deuxième partie, je dirais, c'est la fête, quoi. Mise en application, on joue, on essaye, on en parle, on analyse, on recommence et on boit de l'eau parce qu'il fera chaud.
Alors, ces musiciens du collectif Slang, ils ont enregistré un disque sur un label tout nouveau et tout à fait intéressant en France qui s'appelle Chief Inspector. Ouais. Le disque s'appelle Collectif Slang, c'est le nom.
C'est le premier disque, donc c'était simple, c'est la première chose à dire. Bonjour, nous arrivons.
Bon, eh bien, écoutez, voilà un extrait donc de ce disque.
Ouais.
Frédéric Collignon, on vient d'entendre donc un extrait de ce disque collectif Slang. Mm-hmm. Vous participez à combien d'orchestres?
Pas mal, ouais. Il va falloir que je fasse très attention encore, mais ça fait déjà des années que je fonctionne comme ça. Donc, pour l'instant, tout va bien, j'arrive à m'organiser. Alors, entre le solo, le duo avec Philippe Glaise, un batteur, avec Slang Collectif, mon quartet qui s'appelle le Jukebox, avec Frank Vost, Philippe Glaise et Frédéric Schifolo. J'ai en préparation un sextet, j'ai le Napolis Waltz avec Louis Clavis, j'ai l'ONJ, l'Orchestre National de Jazz avec Claude Barthélémy, Quintet avec Jean-Louis Pommier, Alban Darche et d'autres musiciens, je ne vais pas tous les citer, mais le Sacre du Tympan également.
Ça, c'est l'Orchestre de Fred Palem.
Rats, l'Orchestre de Fred Palem, un quartet avec Thomas de Porquerie.
Vous êtes le musicien qu'on s'arrache. Vous dites profitons-en.
Ouais, j'en vite, il est jeune, vas-y, allez, on va lui sucer le sein, hein, les petits moustiques. Non, je ne sais pas, c'est aussi ma propre volonté, quoi. Je pense que, sachant que je peux m'organiser, j'en sais rien, en tout cas avoir plusieurs états différents, peut-être que les gens savent ça d'avance et me sollicitent. Et voilà. Something sinister to it. Pendulum swinging slower, degenerate moving through the city with criminal stealth. Welcome to enemy turf, harder than immigrants work. Golf is distant in my shirt. Get up off the pavement, brush the dirt up off my psyche. Psyche, psyche. It's probably been 12 years since my father left. Left me fatherless. And I just used to say I hate him in dishonest jest. When honestly I miss this nigga like when I was 6. And every time I got the chance to say it, I would swallow it. 16, I'm hollow intolerant. Skip shots of storm, that whole bottle. I show you a role model. Drunk pissy pissing on somebody front lawn. Trying to figure out how and when the fuck I miss moderate. Mama often was offering peace, offering stink. Weeds cough, scoffing, and he's off again. Searching for a big brother, Tyler was that. And plus he like how I rap, the blunt and mice the trap. Too black for the white kids and too white for the blacks. From on the road to cracking locks up off them bicycle racks. I'm indecisive, I'm scatterbrained and I'm frightened. It's seven and in them eyes where he hiding all the icicles at. Something sinister to it. The pendulum swinging slower, degenerate moving through the city with criminal stealth. Welcome to enemy turf, harder than immigrants work. Golf is distant in my shirt. Get up off the pavement, brush the dirt up off my psyche. Psyche, psyche. Time lapse, bars rotting, hearts bottomless pit. Was mobbing deep as 96 Havoc and Prodigy did. We were the potty mouth posse, crashed the party and dipped with all belongings to toss them out to the audience. Nothing was fucking awesome, trying to make it from the bottom it is. Feeling as hard as Vince Carter's knee cartilage is. Supreme garment and weed gardeners garnished and splits with Keith particles and entering apartments with zine article tolerance for boundaries. I know you happy now, craving any complex fuck niggas that track me down just to be the guys that did it. Like, I like attention, not the type where niggas trying to get a raise at my expense. I'm supposed to be grateful, right? Like, thanks so much, you made my life harder. And the ties between my mom and dad straining, tightened even more than they were before all of this shit. Been back a week and I already feel like calling it quits. Something sinister to it. Pendulum swinging slower, degenerate moving through the city with criminal stealth. Welcome to enemy turf, harder than immigrants work. Golf is distant in my shirt. Get up off the pavement, brush the dirt up off my psyche. Psyche, psyche.
C'était Médéric Collignon dans Un poco agitato de Yvan Amar. Réalisation Jean-Philippe Navarre, première diffusion le 9 juin 2004 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.